Google aujourd'hui est dans le même pétrin, je pense, que Kodak l'était dans le passé. C'est que leur vache à lait de génération d'argent et de profit est menacée par un nouveau modèle d'affaires. Ils sont dans un mode, est-ce qu'on s'auto-cannibalise nous-mêmes ou on attend que quelqu'un nous cannibalise puis après ça, on sort le mammouth pour l'écraser. Donc, ça va être vraiment un jeu d'échecs qui va être impressionnant à regarder dans les prochains trimestres, là.
Donc, on est de retour au podcast Discussion d'affaires avec Jonathan Léveillé. Et Jonathan et moi, Antoine Gagné, on est fébrile parce qu'on enregistre le tout le 5 novembre 2024, le jour même des élections américaines qui vont dicter la suite des choses pour un paquet de nos entreprises, un paquet de choses dans le monde. Et comme vous le savez, on parle pas de politique sur le podcast, on parle davantage de nouvelles du monde des affaires. Et Jonathan, je pense que tu en avais des belles à nous dire. Il y a des nouveaux programmes qui risquent d'être intéressants peut-être pour les entreprises, pour les gens qui nous écoutent là.
Absolument. Étant avec OpenMind en automatisation numérique, il y a eu beaucoup de subventions qui ont été offertes aux entreprises du Québec et du Canada dans les dernières semaines, mois et trimestres. Et là, il y a quelque chose de gros qui est sorti la semaine passée qui peut toucher beaucoup de nos auditeurs présentement, que ça soit pour l'innovation numérique, l'automatisation, mais également pour le volet vert dans les entreprises. Eh bien, il y a Investissement Québec qui a sorti un nouveau programme qui s'appelle le programme Grand V pour Grand Virage. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. On parle de 4,5 milliards de dollars sur la table pour les trois prochaines années pour aider les entreprises à investir dans l'innovation et la productivité durable. Donc, le concept de ce programme-là, c'est vraiment de donner un sérieux coup de pouce aux entreprises pour améliorer la productivité, devenir plus innovante et embrasser encore plus la tendance verte. Donc, c'est vraiment pour accélérer ces trois piliers-là. Ça se compose en deux volets. Il y a un volet de financement flexible et un volet de support conseil technique. Donc, le côté financement, on parle des enveloppes de financement de minimum 250 000 $ et plus. Et l'élément qui est pertinent là-dedans, c'est qu'ils offrent jusqu'à 4 ans, donc 48 mois de moratoire de remboursement sur le capital. Donc, si vous avez un projet vraiment qui peut toucher, puis c'est très large le programme, mais amélioration de votre productivité, développement de produits innovants et embrasser une initiative verte et que vous avez besoin de capitaux pour réussir à financer ces initiatives-là, levez le téléphone, appelez votre conseiller chez Investissement Québec ou si vous n'avez pas encore de conseiller, je vous invite à prendre connaissance de qui est la personne dans votre région qui pourrait s'occuper de votre dossier. Donc, des enveloppes de financement de minimum 250 000 $ et plus, jusqu'à 4 ans de moratoire sur le remboursement du capital. Et cet argent-là vient également avec de l'expertise et des conseils jusqu'à 100 heures de support personnalisé avec des experts en innovation et des experts en automatisation de Investissement Québec. Donc, ils vont toucher l'ensemble des entreprises. Petites, moyennes et grosses entreprises sont éligibles pour ce programme-là. Et c'est vraiment pour booster la recherche et l'innovation au Québec. Ils ont déposé une statistique dans leur communauté de presse qui, moi, me rejoint beaucoup, qui est que les entreprises qui investissent dans l'innovation sont 2,6 fois plus susceptibles d'augmenter leurs ventes. Et sont 2,4 fois plus susceptibles de s'ouvrir à des marchés internationaux. Donc, tout ce qui est innovation égale augmentation des ventes et également aller chercher de la richesse dans des pays où ce que notre dollar canadien nous favorise en termes de marge de profit au final. Donc, je vous invite fortement à lever le téléphone et à parler avec les gens chez Investissement Québec. On peut profiter autant des heures de conseil sans aller chercher le financement que d'aller chercher le financement sans les heures de conseil. Il y a la possibilité d'aller chercher également ce combo-là, les deux sur la table. Et ça vient remplacer deux initiatives que Investissement Québec avait fait. Donc, si vous étiez déjà dans des programmes comme Compétiver, entre autres, et Productivité Innovation, qui étaient deux programmes lancés en 2020 et 2021, ce nouveau programme-là, Grand V, vient rassembler et enlever ces deux programmes-là de ce qu'on a compris pour réussir à ramener sous un seul parapluie l'aspect augmentation de productivité et l'aspect vert également que le gouvernement pousse beaucoup devant nous. Donc, c'est un nouveau programme qui vient d'ouvrir le 29 octobre, là, donc dans les dernières journées. Il y a quand même beaucoup d'argent sur la table. Si vous avez des idées là de votre côté, n'hésitez pas à lever le téléphone et d'appeler Investissement Québec pour en savoir plus. On a également mis à votre disposition sur notre site web, dans notre section blog, un peu d'informations sur ce programme-là. Donc, vous pouvez vous rendre au openmindt.com/subvention avec un S. Et on a répertorié beaucoup d'autres subventions qui peuvent être admissibles pour des projets d'innovation et d'augmentation de productivité dans vos organisations. Je mets le bémol, on n'est pas des experts en subventions et c'est pas notre core business. Par contre, on se fait beaucoup parler de ça. Donc, on a voulu rassembler une partie de l'information sur notre site web. On pourra probablement mettre le lien dans les notes de l'épisode.
Bien sûr.
Mais super belle initiative d'Investissement Québec qui arrive vraiment avec un mammouth de financement assez impressionnant pour le Québec.
Puis, quelles entreprises sont éligibles ici?
Toutes les entreprises, petites, toutes moyennes et grandes. Ils ont vraiment été cherchés très, très, très large. Est-ce qu'ils vont raffiner le programme à travers le temps? Peut-être, mais jusqu'à date, ce qui a été annoncé, c'est pratiquement toutes les entreprises du Québec qui sont admissibles. Ensuite, ils vont moduler après ça les options de financement puis les options de conseil. Donc, c'est vraiment un programme de financement et un programme d'accompagnement en expertise. Et ils ont voulu ne pas créer de silo jusqu'à date de ce qu'on voit dans les petites lettres du contrat. C'est très, très, très large. Il n'y a pas de contraintes jusqu'à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y en aura devant nous? Fort à parier qu'ils vont raffiner le programme, mais en même temps, ils ont quand même déposé ce budget-là, 4,5 milliards sur 3 ans. Donc, ça sera, je pense, facilement accessible pour pas mal tout le monde qui nous écoute aujourd'hui.
Fantastique. Et bon, toi qui es un fan d'intelligence artificielle, tu me disais juste avant le podcast que ChatGPT, c'est plus assez bon pour OpenAI. On va aller à vitesse supérieure, là.
On a vu OpenAI qui a levé des milliards de dollars dans les dernières semaines. Ils ont une idée derrière cette levée de fonds. Ils ont un projet en arrière qui veut les amener au prochain niveau. Eh bien, ça commence à s'ébruiter sur Internet. Ils seraient en train de prévoir un lancement en décembre 2024, donc dans moins d'un mois, d'un nouveau modèle d'intelligence artificielle qui est sous le nom de code Orion, qui serait le successeur de GPT-4, qui entre autres présentement est le moteur derrière ChatGPT. Et il y a déjà des rumeurs de comment qu'ils vont réussir à l'amener au marché. Et contrairement aux versions précédentes qu'on a vues, le 4O et le O1, qui étaient disponibles en premier un peu à monsieur et madame tout le monde par ChatGPT, ils vont le proposer aux grands clients commerciaux en premier qu'ils vont sélectionner pour réussir à leur donner un peu cet avantage compétitif-là. Ce qui fait que Microsoft serait déjà en train de préparer les plateformes d'hébergement sous Azure à l'heure où ce qu'on se parle. Donc, il y a vraiment des informations qui circulent, qu'ils sont en train de bâtir toute l'infrastructure requise pour être capable de lancer ce modèle-là et de le rendre disponible aux grands partenaires commerciaux. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est que l'annonce ou l'information qui circule, c'est que ce nouveau modèle-là, Orion, serait 100 fois plus puissant que GPT-4. Donc, ça serait un bond en avant de manière hallucinant et incroyable qu'on se rapprocherait vers l'intelligence artificielle générale, donc l'AGI, qui permettrait à terme, on ne sait pas quand ça va arriver, mais c'est pratiquement écrit dans le ciel que ça va arriver, que l'intelligence artificielle va devenir plus intelligente qu'un cerveau d'un être humain. Donc, ça serait un grand bond en avant, un grand pas vers cette étape-là. Et le lien intéressant, c'est que tu as sûrement vu, Antoine, et tu l'as essayé, le nouveau modèle O1 qui est disponible, qui permet d'avoir une certaine réflexion sur lui-même. Eh bien, il y a une raison pourquoi ils ont lancé ce modèle d'intelligence artificielle-là il y a quelques semaines. C'est que le modèle O1, présentement, sert à générer des données synthétiques pour entraîner le nouveau modèle Orion qui va remplacer GPT-4. Donc, une des faiblesses de la technique qui est utilisée en intelligence artificielle, c'est la limite d'information qu'on peut entraîner les modèles, donc l'information générée par l'être humain. Et là, le modèle O1 aurait été développé dans l'optique de créer des données par lui-même pour entraîner par la suite le nouveau modèle d'intelligence artificielle qui serait 100 fois plus puissant que GPT-4. Donc, c'est ce qui va permettre probablement d'aller au prochain niveau. Et mon pari, c'est la raison pourquoi ils ont levé, entre autres, 6,6 milliards de dollars US dans les dernières semaines et qu'ils ont restructuré un petit peu l'entité pour l'amener plus vers une entreprise à profit. Parce qu'ils détiennent vraiment la prochaine étape qui vont encore les propulser en avant du marché devant tout le reste de la compétition. Là.
D'ailleurs, parlant de ça, Jonathan, je ne sais pas si tu as vu, mais je lisais un excellent article ce matin qui mentionnait que OpenAI, donc essentiellement son chef, le chef du conseil d'administration, Brett Taylor, disait à Bloomberg qu'ils sont en train littéralement de tout mettre en place pour transformer l'organisation vers une entreprise à profit au lieu d'une organisation qui n'est pas à profit. Ils risquent de garder toujours une entité qui n'est aucunement reliée à générer des retours pour les investisseurs, mais tout de même, ils sont de plus en plus intentionnels sur le fait de vouloir se transformer en tant qu'organisation. Ça fait du sens, voyant tout ça. L'organisation, on en parlait, a levé de l'argent récemment, 157 milliards de dollars, la nouvelle valorisation que OpenAI a eue lors de sa dernière ronde de financement. Et là, tu parles de Orion. De ton côté, est-ce que tu as testé le volet recherche dans ChatGPT, qui est littéralement un compétiteur direct à Google? Est-ce que tu as testé un petit peu le tout? Et si oui, qu'est-ce que ça a donné de ton côté?
Ben, c'est intéressant parce que en plus de faire évoluer leur grand modèle d'intelligence artificielle, ils lancent plein de petites fonctionnalités. Puis, je pense que c'est un bon point d'en parler. Ils ont lancé 3 fonctionnalités de manière successive dans la dernière semaine. Donc, un, l'aspect de recherche en direct dans ChatGPT qui permet de dire, OK, pour la question que je te pose, va faire des recherches sur Internet et reviens. La deuxième fonctionnalité qui est maintenant active, c'est la possibilité de discuter en temps réel via notre ordinateur. C'était possible dans les dernières semaines par le téléphone mobile, mais si vous n'avez pas encore testé sur votre application Windows ou Mac, il fallait télécharger maintenant l'application de ChatGPT que vous installez sur votre poste, qui est plus rapide que le format web, et ça va vous donner accès à cette fonctionnalité-là en temps réel. Et hier, j'ai vu qu'ils ont lancé un plugin, donc une extension sur Chrome et sur Edge pour venir interagir avec ChatGPT Search, entre autres. Et là, de ce que j'ai vu, c'est qu'il remplace le moteur de recherche par défaut dans le navigateur. Et d'ailleurs, ça crée une alerte de sécurité parce que Windows n'aime pas ça. Donc, ils sont en train de pousser puis essayer de venir compétitionner Google. Fort à parier que dans les dernières journées, il y a des gens chez Google présentement qui sont en mode panique. Donc, j'ai eu la chance de l'essayer de mon côté. J'ai pas vu une énorme différence parce que j'avais l'impression qu'il le faisait déjà en arrière-plan. Et j'ai même joué un petit peu avec de ne pas l'activer. Et quand il ne trouve pas sa réponse, par lui-même, il l'active sans nous le dire. Donc, je pense que c'est un peu plus un coup de marketing pour faire jaser les gens qu'il y a une fonctionnalité de recherche qui nous amène ensuite sur le plugin parce qu'ils font de la pub pour installer le plugin maintenant dans ChatGPT. Et pour enlever à ce moment-là des parts de marché à Google ou aller chercher le futur un peu dollar qu'il va y avoir sur ce nouveau marché-là qui est créé, qui est la prochaine version de nos moteurs de recherche dans le fond.
Ben, j'ai quasiment le goût de te dire, volet recherche ou volet non-recherche, moi de mon côté, en ce moment, les recherches que j'ai à faire, je les fais plus souvent qu'autrement avec un modèle ChatGPT ou un Perplexify que via Google. Littéralement, c'est beaucoup plus pratique. Donc, comme tu le mentionnes, est-ce que c'est un coup de marketing? Parce que de toute façon, j'ai l'impression que il y a déjà beaucoup de gens qui ont changé leur modèle de consommation, leur modèle d'action sur les différentes recherches qu'ils vont faire sur Internet. Et le paradoxe incroyable, c'est qu'en ce moment, Google est en train d'être surveillé de près par le DOJ, le département de la justice américaine, pour être un monopole dans l'environnement de recherche. Il y a des menaces comme quoi qu'ils vont essayer de briser l'entreprise en 4, de briser l'entreprise en 3, peu importe quelle sera la conséquence au final. Et tout ça se déroule au moment où est-ce qu'on pourrait dire que c'est la première fois en 20 ans qu'ils ont une réelle compétition qui se pointe le bout du nez. On dirait que jusqu'à maintenant, il y a certains joueurs qui ont essayé de s'intégrer, mais je ne sais pas ce que tu en penses, mais en ce moment, c'est la première fois que moi, personnellement, je vois un joueur arriver et je suis déjà en train de l'adopter plus que Google. Et si mes recherches s'en font sur ChatGPT et ne se font pas sur Google, ben pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que ça impacte comme modèle d'affaires? Ben eux, ils vendent de l'espace publicitaire. Donc, si du jour au lendemain, les requêtes de recherche passent pour un certain mot-clé de 10 000 à 1 000 par mois parce que toutes ces requêtes-là maintenant sont faites sur ChatGPT, ben vous aurez compris que le dollar publicitaire va se vendre beaucoup moins cher à l'annonceur. Et de cette manière-là, c'est là que les revenus de Google peuvent être grandement impactés. Je trouve le paradoxe donc fascinant. On veut et on attaque Google en ce moment sur un monopoly depuis longtemps. Et pour la première fois, on dirait que quelqu'un qui vient vraiment s'intégrer pour leur prendre des parts de marché.
Et moi, j'ai l'impression qu'on est un petit peu comme ceux qui ont connu les années 90 et début 2000 avant Google. On avait des moteurs comme AltaVista, entre autres, qui étaient beaucoup utilisés, qui donnaient un résultat qui était appréciable pour le temps parce que c'était nouveau. Et quand Google est sorti, on a fait, mon Dieu, c'est le holy grail de la recherche, ouais, sur Internet. Et enfin, ça vient régler un problème. aujourd'hui, moi, quand j'ai une question sur quelque chose, j'ai l'impression, si je vais sur Google, c'est comme si j'allais sur AltaVista dans le temps, ouais. Que c'est long, il y a des étapes de plus, il faut que je cherche, il y a du manuel, il y a des chances que je ne sois pas sur la bonne réponse. Alors que j'ouvre mon application mobile de ChatGPT ou mon application bureau et je pose une question en vocal, il me répond comme s'il y avait un expert qui était à côté de moi et je peux le challenger, dire non, je suis pas d'accord avec ta réponse ou va me chercher plus de détails ou va plus en profondeur. Donc, j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, Google est un peu menacé comme ils ont menacé dans le temps AltaVista. Et c'est vraiment spécial, comme tu dis, dans le contexte où ils se font attaquer en tant que monopole aujourd'hui. Ils vont le perdre, leur monopole, s'ils bougent pas devant eux de manière organique. Ça, j'en suis complètement assuré devant nous autres. Et ce qui est spécial, c'est que, et c'est peut-être là pour ceux qui nous écoutent, il y a une fenêtre d'opportunité, je pense, qui s'installe devant nous. Les entreprises qui vont réussir à bien intégrer les modèles comme ChatGPT et l'AI, il y a un délai entre quand l'humain va vraiment le prendre en charge et le aujourd'hui. Puis ça, un bon exemple, je peux vous donner, dans les états financiers de Google, ça paraît encore pas. Cet aspect-là, qu'ils sont menacés au niveau du nombre de recherches. Pourtant, Antoine, moi aussi, on l'utilise à tous les jours et on utilise beaucoup moins Google et ça nous donne un effet de levier sur la compétition. Donc, si vous n'avez pas encore mis ça en réflexe, en utilisation dans votre entreprise, je pense que ça vaut la peine d'utiliser cette fenêtre d'opportunité-là qui est la différence entre la disponibilité des outils et le temps que la masse va l'utiliser. Et fort à parier, dans les prochains trimestres, on va commencer à avoir une inflexion vers le bas dans les profits chez Google qui va venir confirmer cette théorie-là que de plus en plus, la recherche va se faire par des outils comme ChatGPT et que les revenus publicitaires vont diminuer. À moins que Google amène un nouveau modèle de publicité derrière tout ça, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner parce que ça sera pas facile à monétiser autant que comme ils font présentement.
On fait une petite pause sur le podcast en cours parce que je veux vous parler d'un partenaire du podcast Hypercroissance et j'ai nommé Hello Darwin. Pour les gens qui ne connaissent pas Hello Darwin, on parle ici d'une organisation qui est capable de vous accompagner de A à Z pour vous aider à trouver des subventions pour votre organisation. Et ça, c'est donc important parce qu'il y a tellement d'organisations au Québec qui recherchent des prêts pour leur entreprise, mais qui ne sont pas au courant du nombre de subventions données par le gouvernement canadien. C'est assez impressionnant, tout l'argent qu'il y a sur la table, mais que nous, en tant qu'entrepreneurs, on est trop paresseux et on ne va pas chercher. Et c'est là que Hello Darwin rentre en compte. Hello Darwin fait pour vous de A à Z toutes les démarches pour aller chercher les subventions pour votre organisation. Et aujourd'hui, je veux vous parler d'une subvention qui s'appelle le C3I. Donc, le C3I, qu'est-ce que c'est? C'est un crédit qui peut permettre aux organisations d'obtenir de 15 jusqu'à 25 % de crédit sur de l'achat de fabrication pour de la machinerie ou également des investissements si on veut refaire, par exemple, notre logiciel de gestion, notre ERP. Eh bien, ici, cette subvention, la subvention C3I, est capable de vous donner un crédit, je le répète, de 15 jusqu'à 25 % de tous les coûts engendrés pour la fabrication de machinerie ou encore pour aller installer et acheter un nouveau logiciel de gestion pour votre organisation. Si vous aimeriez avoir accès à cette subvention-là, si vous aimeriez que l'équipe de Hello Darwin fasse tout de A à Z pour vous et que vous, par la suite, vous soyez capable de récolter cette subvention, rendez-vous au go.hellodarwin.com/hypercroissance. Donc, je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Il y aura un lien également dans les notes de l'épisode. Remplissez le formulaire. Parlez avec l'équipe de Hello Darwin et allez chercher l'argent qui vous revient. C'est de l'argent que vous êtes capable d'obtenir pour votre organisation. Et en plus de pouvoir parler avec l'équipe d'Hello Darwin, vous pouvez également assister à leurs différents webinaires qu'ils font chaque mois. Il y aura également un lien dans les notes de l'épisode. Les webinaires portent, bien entendu, sur les subventions. De retour à l'épisode en cours. Ce que je trouve fascinant, c'est que OpenAI, si on regarde un petit peu la lutte qui se passe, on pourrait dire qu'il y a peut-être 3 très gros joueurs et peut-être 5 joueurs au total vraiment qu'on voit qui essaient de se disputer tout ça. Donc, bien entendu, OpenAI, Google, Meta avec Llama, Anthropic avec Claude et également, ben, il y a bien entendu Elon Musk avec son xAI. D'autres joueurs certainement s'intègrent, mais on pourrait dire qu'en ce moment, ben, Perplexify également. Il y a quand même plusieurs joueurs. Mais ce que je trouve fascinant en ce moment, et je serais curieux peut-être d'entendre ton avis ici, c'est de voir que là, on arrive à 2 ans. Ça fait 2 ans maintenant. On est en novembre 2024. Ça fait 2 ans maintenant que ChatGPT a été lancé. Ils sont encore premiers. Et beaucoup de gens doutaient de ça, puis on est encore au tout début. Ça va prendre plusieurs années, je pense, qu'avant qu'on soit capable de tirer une vraie conclusion, parce qu'on a juste à penser aux premiers médias sociaux. Les MySpace de ce monde ne sont plus là aujourd'hui. Les Alta Vista de ce monde ne sont plus là aujourd'hui. Les Toiles du Québec ne sont plus là aujourd'hui. Donc, ça ne veut pas dire qu'en étant premier après 2 ans, tu vas le rester après 5 ans. Mais on dirait que l'écart se creuse un petit peu parce que les fonctionnalités arrivent plus rapidement. On dirait que la consommation, la manipulation est également plus facile. Je ne sais pas pour toi, Jonathan, mais j'ai absolument aucune personne autour de moi qui me dise que quotidiennement, ils utilisent Gemini de Google. Aucune personne autour de moi qui me parle de ça. Et on dit qu'ils ont cette capacité. J'ai jamais même pensé une seconde à aller utiliser Gemini. Et j'ai l'impression que c'est dans une optique que, vu que j'ai Google, que je pourrais encore utiliser, je vais penser davantage à Google Search qu'à Gemini. Et j'ai l'impression qu'ils sont quasiment en train peut-être se cannibaliser l'un l'autre. Et c'est peut-être une des raisons pourquoi on ne pense pas à l'autre. Mais dans ma tête, en ce moment, il n'est jamais dans les premiers. Il y en a deux vraiment que j'utilise, Perplexify et ChatGPT, mais Gemini, aucunement. Et là, on parle de Google, on parle d'un joueur qui génère, j'ai regardé les derniers états financiers, je pense qu'ils ont généré 20 milliards de profits nets au dernier trimestre. On parle de joueurs qui sont excessivement massifs ici, là. Donc, et tu vois un autre joueur qui est loin d'être profitable, qui a le vent dans les voiles, que l'entièreté de l'équipe de direction est en train de quitter, reste numéro un. Je trouve ça assez exceptionnel.
C'est ça qui est spécial, c'est ils sont tellement rapides à bouger, puis c'est probablement pour ça qu'ils veulent changer leur structure organisationnelle pour enlever les bâtons dans les roues pour avancer. Ça revient aussi à la question de l'éthique. Ils ne mettent pas l'éthique d'abord et avant tout de l'avant pour être capable de bouger rapidement. Donc, ça a un coût puis une opportunité aussi d'un côté comme de l'autre. Mais puis Google, aujourd'hui, est dans le même pétrin, je pense, que Kodak l'était dans le passé. Et Blockbuster l'était, c'est que leur vache à lait de génération d'argent et de profit est menacée par un nouveau modèle d'affaires. Et là,
bien sûr,
ils sont dans un mode, est-ce qu'on s'auto-cannibalise nous-mêmes ou on attend que quelqu'un nous cannibalise puis après ça, on sort le mammouth pour l'écraser? Mais ils sont dans cette position-là, Google, aujourd'hui. Donc vraiment, ça va être intéressant à suivre dans les prochains trimestres parce que là, on voit clairement que OpenAI rentre sur le marché de la recherche. Il va tenter d'aller chercher des parts de marché de Google devant nous autres. Et là, où va se situer Bing en arrière de Microsoft, ce qui génère quand même 3 milliards par année, 3-4 milliards, qu'ils ont la technologie en arrière pour aller au prochain niveau aussi. Ça va être vraiment un jeu d'échecs qui va être impressionnant à regarder dans les prochains trimestres. Là.
26 milliards, Google, qui ont généré en profit net au dernier trimestre. Donc, c'est juste pour donner un peu une perspective de dire, ce n'est pas à cause qu'une organisation est capable de pleuvoir la profitabilité qui peuvent automatiquement aller les plus vite de l'avant. Et c'est ça que je trouve assez fantastique parce que habituellement, les nouvelles startups émergentes dans une catégorie précise se faisaient avaler, dans le temps de le dire, par un gros joueur. On a simplement pensé aux médias sociaux avec le début des années 2010. Facebook est le gros joueur. Instagram arrive, on met la main sur Instagram. Bon, c'est dans le temps également que les acquisitions étaient encore permises. Mais quand tu regardes 10 ans plus tard, Meta, Facebook reste le joueur numéro un au niveau des médias sociaux. Bon, bien entendu, il y a TikTok qui s'est intégré à travers le temps. Il y a un compétiteur qui est venu, mais il y en a un seul qui a vraiment été capable de venir compétitionner considérablement ce que Meta fait. Et habituellement, les gros joueurs sont capables de mettre leurs tentacules sur beaucoup de lignes d'affaires, beaucoup de verticales différentes. Ici, OpenAI continue de s'en sortir même après 2 ans. Je trouve ça fascinant et j'ai quasiment envie de dire qu'en aucun temps, j'aurais envie en ce moment d'arrêter d'utiliser ChatGPT. J'ai simplement envie de l'utiliser encore plus. On dirait que mon utilisation à travers le temps augmente. Donc, loin de moi l'idée même de partir de cet outil-là.
Et si, Antoine, on se projette dans 10 ans et qu'on regarde en arrière, je pense qu'on va pouvoir se dire que le modèle de OpenAI au départ, qui était pour pas un modèle de profitabilité, a été probablement ce qui a permis à ce joueur-là d'avancer à un certain niveau et d'atteindre une certaine vélocité sans être avalé par un grand. Parce que normalement, n'importe quelle entreprise qui aurait démarré sous un cadre privé pour argent aurait probablement déjà été avalée par Microsoft. Ils ont essayé de le faire un peu par la bande en arrière, mais si ça avait été dans un cadre privé régulier, il y a fort à parier qu'il y aurait probablement un gros joueur qui aurait sorti des milliards sur la table pour les acheter puis réussir à l'intégrer dans leur propre modèle d'affaires. J'ai comme l'impression que c'est une faille, une anomalie dans l'écosystème d'entreprise qui fait que là, OpenAI va devenir une énorme entité au final, puis un gros compétiteur au grand majeur.
Il aurait été scruté de près. On les aurait regardés beaucoup plus de près si c'était une organisation privée. Je pense que peut-être qu'ils sont passés sous le radar à cause de ça. Donc ça, c'est un point intéressant. Mais oui, je pense que c'est assez fascinant de voir tout ça. J'ai hâte de voir également les avancées de Meta. Meta qui disent que leur Llama est utilisé comme pas possible par énormément de gens. Moi, personnellement, c'est pas un endroit que je l'utilise au niveau des médias sociaux.
Je vais mettre une bémol là-dessus parce que j'ai écouté un podcast là-dessus sur les chiffres d'utilisation de leur modèle d'intelligence artificielle. Tous ceux qui utilisent la fonctionnalité de recherche dans Facebook, dans Messenger, dans WhatsApp et dans Instagram, vous avez peut-être remarqué qu'ils ont mis une petite phrase comme quoi que c'est propulsé par leur moteur d'intelligence artificielle. Donc, dans la fameuse utilisation de leur intelligence artificielle, toutes les recherches que l'on fait sont comptabilisées là-dedans. Je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, Antoine, mais à chaque fois que moi je recherche là-dedans, honnêtement, j'ai pas besoin de force d'intelligence artificielle derrière tout ça. Et souvent, les résultats qui sont poussés sont pas très wow. Donc, pour moi, si je faisais une recherche normale, mais ma recherche normale tombe dans la comptabilisation d'utilisation de ce modèle-là. Donc, les chiffres d'utilisation de Meta, ouais, à l'heure actuelle, sont faussés.
Il l'avait dit. Il avait dit Zuckerberg. Il dit, on lance ça, on n'a aucune idée si les gens vont l'utiliser. Donc, bref, à voir, mais... Non, écoute, c'est intéressant. C'est intéressant de voir ça aller. Bon, avant qu'on se perde un petit peu là-dedans, des choses à rajouter, Jonathan?
Ben, dernière partie, peut-être, dernier item par rapport à Meta. Ils ont annoncé qu'ils ont bâti un parc équivalent à ce que Elon Musk a fait. J'avais lancé une nouvelle dans le podcast il y a quelques semaines. 100 000 GPU H100 qui consomment l'équivalent de 400 000 panneaux solaires, wow, qui fonctionnent à pleine efficacité. Eh bien, il y a le 31 octobre, Meta a annoncé maintenant que leur nouveau modèle Llama 4 était entraîné sur 100 000 de ces GPU-là. Donc, ils sont vraiment dans une course de qui va avoir la plus grosse puissance de calcul. Et tout ça au détriment de la capacité énergétique des nations. On va vraiment, on est vraiment dans une ère, je pense, qui va se révéler devant nous que la disponibilité d'énergie va être vraiment un enjeu là, très, 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 très fort. Et on le sent, entre autres, avec Hydro-Québec et tout ce qui se passe ici au Québec. Donc, à suivre là-dedans. Par à Paris, il va y avoir beaucoup de modèles d'affaires qui vont se générer derrière tout ça, beaucoup de bonnes opportunités. Mais Meta qui viennent de répliquer et qui viennent de relancer un petit peu Elon Musk sous sa capacité de calcul de son intelligence artificielle.
Intéressant. Bon, Jonathan, merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Toujours intéressant de discuter un petit peu de tous ensemble. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.